spectaculaire commence aujourd'hui, émission numéro 134, Christophe Rollin au micro, mercredi 7 juin 2017, et c'est un tel plaisir de réécouter notre générique Cora que voilà, on prolonge un peu, 14h03, nous sommes en fort bonne compagnie, je dis nous, puisque Gérald est présent, Isa n'est pas là, coucou Isa, une impossibilité pour aujourd'hui, peut-être le verrons-nous mercredi prochain, David Ayala est présent avec nous, David Ayala, rappelez-vous auditeur, déjà venu auparavant, je le préciserai tout à l'heure, mais tentons de faire bref, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. David Ayala est actuellement à l'affiche du Théâtre des Célestins pour la pièce Le vent se lève, Les idiots, irrécupérables. Il est à la conception, la réalisation ainsi que la mise en scène. C'est une pièce qui a commencé hier, mardi 6, et elle se continue, elle se prolonge jusqu'à ce samedi 10 juin. C'est à 20h dans la grande salle et c'est assez énorme comme spectacle. Voilà, nous allons en parler jusqu'à 15h comme d'habitude. On va commencer avec de la musique. Alors ne vous trompez pas, vous êtes bien sur Radio Canu, mais vous allez peut-être avoir l'impression quelques instants de vous trouver une demi-heure en arrière sur France Culture. Et puis on enchaînera sur différentes choses. Comme d'habitude, vous nous écoutez donc sur Radio Canu, c'est-à-dire le 102.2 de la bande FM à Lyon, ou bien vous le faites sur internet, et puis voilà.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lénine et ses camarades ne disaient pas « nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ». Ils disaient « toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable ». On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite, et qu'ils n'auraient pas faite s'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le pire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37.
Non, il se passe ça. Ça plus rien.
Parce qu'il y aura toujours des fous.
Dans un pays où l'on dresse une statue pour la liberté. Seuls, les statues sont libres. Dans un pays où Dieu est crucifié, seul, la torture est libre. Dans un pays où l'on ne parle plus la langue de sa terre, seul, les dictionnaires sont libres. Dans un pays où l'on fait des images pour remplacer le feu. Seul, la télévision est libre. Dans un pays où le pétrole recouvre les oiseaux de mer, seul, les désinfectants sont libres. Dans un pays où l'on photographie les derniers arbres, seul, le souvenir est libre. Dans un pays où l'on place l'honneur en légion, des masques femmes. Seuls, seuls. Les masques sont libres. Dans un pays où l'on procède à des essais nucléaires. Seuls.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Pardon, bonjour. Pourquoi bonsoir? C'était le, peut-être le grand soir qui m'a... sans doute. On va parler d'un spectacle renversant énorme, comme disait Christophe à l'instant. Vous êtes bien sur Radio Canu, 102.2. On vient d'écouter le générique d'une émission célèbre, hein, Les Pieds sur Terre sur France Culture, extrait d'une compilation des Arocs qui s'appelle...
Get Misunderstood du groupe Troublemakers. Troublemakers. Voilà. Et puis juste après, on a enchaîné avec, c'était quoi ça exactement?
Avec Graffiti, on l'avait déjà passé parce que c'est de la poésie sonore avec André Mainviel, Serge Pède, un album que j'adore qui s'appelle Nous sommes cernés par les cibles. Et on reçoit David Ayala, ici présent, qui malheureusement n'est pas venu avec une des 7 comédiennes d'une équipe de 13 personnes qui envahit le théâtre des Célestins pour la semaine lors d'un spectacle de 2h45 qui s'appelle Le vent se lève, les idiots irrécupérables. En sous-titre.
Et alors, en fait, on ne va parler. Je te coupe un instant, Gérald, et puis je coupe également David pour lui laisser mieux la parole, puisqu'on ne va pas revenir sur un portrait. Auditeur, je vous renvoie. Émission numéro 113, hein, c'est ça, Gérald, du mercredi 30 novembre dernier. C'était à l'occasion de la pièce mise en scène par Claude Stavisky de Howard Barker, Tableau d'une exécution. Vous interprétiez le peintre, j'ai mangé son nom, je m'appelle Galaxia, mais vous, c'était.
Carpeta.
Ouais. Donc vous aviez déjà brossé votre portrait d'athlète montpelliérain qui ensuite a pris le goût du théâtre.
Ce à Paris, 26 ans de...
Ce qui est une excellente chose.
Ouais. Dans la compagnie La Nuit Remue.
Oui, La Nuit Remue.
Hommage à Henri Michaud, peut-être.
Exactement, oui.
Et puis, enfin voilà, donc auditeurs, retrouvez cette émission pour avoir tous les éléments. Grand comédien dans différents, avec différents metteurs en scène. Et puis également, donc metteur en scène aussi, c'est d'ailleurs un peu cette facette que vous, disons, pour laquelle nous pouvons vous voir ces jours-ci au Théâtre des Célestins, puisque vous n'êtes pas sur scène, vous êtes je reprends les termes, vous êtes à la conception, la réalisation ainsi que la mise en scène. Bah, voilà, ça peut faire la matière d'une première question. Ça signifie que c'est vous qui avez lu tous ces livres, De Bord, La Fabrique, Comité Invisible, tout ça, et c'est vous qui les avez, qui avez donc réalisé le spectacle, écrit, et puis la mise en scène. Non, ça n'est pas que vous.
Il y a une écriture collective aussi. C'est-à-dire là, le groupe, la Nuit Remue, là, les gens que vous voyez sur scène, on travaille ensemble depuis un certain temps déjà, et on avait à notre actif notamment une pièce sur Guy Debord en 2008.
Scanner, voilà. Scanner. Je l'ai manqué moi. Ouais.
Scanner, c'était le titre, c'était Scanner. Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes dévorés par le feu. C'est le titre de Injury Room en fait, qui est un film aussi. Mm-hmm. Et donc cette pièce avait eu un certain succès à ce moment-là.
Un peu à votre surprise, vous évoquez, c'est assez étrange.
Ouais, c'était très curieux parce qu'on avait assez peur avec l'écriture de Debord, avec cette figure, avec c'est ce côté aussi un peu perturbateur, vraiment subversif de et en fait il ne voulait pas qu'on fasse des spectacles avec ses textes, et on a eu la chance à l'époque d'avoir les droits de sa veuve en fait, de Alice Debord, et qui nous a donné les droits. Donc c'était vraiment incroyable, et donc pour le coup c'était réellement la première fois en France où il y avait un spectacle de plus de 3 heures en tout cas qui embrassait l'œuvre à peu près, enfin pas l'œuvre entière mais une bonne partie des œuvres complètes, quoi, avec le cinéma, avec les extraits de films, avec et plusieurs œuvres. Donc voilà, on avait le droit d'utiliser ça.
La question a certainement été posée à l'époque: comment faire un spectacle sur Guy Debord?
Ouais, c'est complètement fou en fait.
Guy Debord, auteur de ce grand livre, La Société du Spectacle, grand contempteur de ce. D'ailleurs, on pourrait les finir, mais c'est peut-être un petit peu long. Non, le spectacle, ce n'est pas forcément dans l'émission spectaculaire. Bien entendu, nous parlons des spectacles, mais non, justement, ce n'est pas exactement.
Le concept de spectacle, tout simplement, en fait, si on y regarde bien, c'est tout simplement la société. Et le dit de Bon, la société dans son ensemble, à partir du moment où elle est fabriquée avec des images, l'accumulation des images et l'accumulation du capital, voilà, tout simplement, l'accumulation des marchandises, ça crée Debord le définit comme étant la société spectaculaire marchande intégrée. Voilà. Ouais. Et en plus, il préfigurait déjà, puisqu'il est mort en 94, l'ordinateur était là, etc., etc. Donc, il y avait une nouvelle donnée qui était le début de la révolution technologique, voilà, qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, en fait, véritablement, le concept de spectacle, maintenant, il est intégré dans le numérique, évidemment. C'est ce qu'ils disent le comité invisible, d'ailleurs, dans leur texte, dans leur dernier texte. Pourquoi la révolution n'arrive pas? C'est parce que la révolution se fait avec des corps, et les corps, aujourd'hui, sont devant des écrans.
C'est ça.
Voilà, tout simplement. C'est résumé en une phrase, et c'est très juste.
Donc, Scanner, si on reprend un peu de chronologie, il y a de cela quelques années, un spectacle qui prend, qui marche, dites-vous. Donc oui, j'évoquais à votre surprise un petit peu.
Ça, non seulement ça marchait, mais en plus, c'est que c'était très curieux de voir la réaction des gens, et notamment une réaction très, très spéciale, dont la télé s'est même fait l'écho, et les radios, etc., France Culture, justement, France Inter, etc., parce que les spectateurs interrompaient le spectacle. Et donc ça, c'était, alors nous, on s'y attendait pas du tout, on savait pas, mais il y avait, comme on avait transposé les écrans noirs et les écrans blancs de Guy Debord dans son cinéma, par des grands moments de silence, et comme le spectacle a attaqué la passivité du citoyen spectateur, du
manière
très virulent.
Hurlement en faveur de
voilà,
Sade.
Il y a des gens qui n'en pouvaient plus.
Ils ne quittaient pas la salle, mais ils intervenaient.
Qui montaient sur scène, qui ont voulu interrompre le spectacle. Et notamment des groupes d'anarchistes à Nantes et à Montpellier qui ont provoqué des AG et qui ont, à Montpellier, beaucoup, de manière beaucoup plus virulente, qui ont vraiment saboté. Voilà.
Vous avez été pris à partie vous-même alors?
Oui, tout le monde. Le spectacle s'interrompait et les gens croyaient que c'était du spectacle.
Que c'était prévu dans la mise en scène.
Mais oui, ouais, que c'était prévu, acteurs. Absolument.
Enfin, c'était des vrais acteurs.
Et ben ouais, mais alors après, ça posait des problèmes. Mais du coup, voilà. Donc ça a été quand même relayé dans les radios, etc. Nous, on était bon. Évidemment, c'était perturbant, mais on ne pouvait pas non plus les évacuer manu militari, etc. Ça aurait été complètement absurde. Et puis non, on laissait la place aussi à la parole, mais ça devenait presque. Alors comme c'était dans des théâtres subventionnés, normalement, ces gens-là, les anards entre guillemets, nous disaient vous n'avez pas le droit, vous les gens de la culture subventionnée, etc. Vous accaparez la parole de la théorie révolutionnaire, etc. Donc c'était assez
compliqué. Peut se comprendre finalement dans un sens.
Dans un certain sens, bien sûr.
On reviendra à cette autocritique, parce que à l'intérieur même de votre spectacle, qui est un spectacle sur l'anti-spectacle, on va dire, qui dénonce toutes les formes d'aliénation contemporaine, vous avez joué ce spectacle dans des théâtres subventionnés.
Complètement.
Il y avait pas de politique dans la salle, mais il y a un assaut, vous prenez d'assaut ce théâtre, et il y a une force. On reste un peu déconfit à la fin, parce que on n'avait plus l'impression d'être au théâtre à un moment, et on se retrouve à applaudir comme dans n'importe quel spectacle. Mais quand on entre, alors un signe qui ne trompe pas, c'est les comédiens, tout est déjà sur scène, vous êtes déjà là en fait. Et ça, c'est peut-être une sorte de spectacle, anti-spectacle, qui commence par là, quand les comédiens sont déjà sur scène et que le public commence à arriver. Déjà, c'est un choix
de
mise en scène,
tout à fait.
De non mise en scène.
En fait, le sujet du spectacle, tout simplement, on a cherché. Moi, je voulais faire la suite.
Ah voilà, c'est très bien. Je vous coupe pour dire que nous retrouvons, tout de même, auditeurs, nous retombons sur nos pieds, puisque il était question, vous étiez en train, David Ayala, d'évoquer plus ou moins l'histoire de ce spectacle depuis Scanner, voilà. Il y a cela, donc 7-8
ans,
quelques années. Vous étiez donc, je vous interromps à l'instant, vous disiez, nous souhaitions plus ou moins faire une sorte de suite.
Oui, j'ai eu envie qu'il y ait une suite, parce que les événements sociétaux, de la société, évidemment, ça a passé 7 ans, 8 ans, et comme dit Debord, ça change et ça n'est jamais plus du tout comme avant. Et ça change évidemment d'une manière beaucoup plus inquiétante, beaucoup plus oppressante peut-être dans cette société qui est dangereuse, qui devient de plus en plus, comment dirais-je, inquiétante, mais dans le mauvais sens du terme, au sens de l'économie, du politique, il y a un grand bouleversement, il y a un grand changement.
En termes d'oppression, manipulation,
comment témoigner de ça? Moi, ce qui m'a aussi vraiment motivé à en parler, c'est que c'est intervenu, par exemple, quand on était en train de monter la production du spectacle, il y a eu le phénomène Nuit Debout, il y a eu la publication de À nos amis, qui est la suite donc de l'insurrection qui vient, qui avait fait beaucoup parler d'elle, enfin de deux, en 2006.
Aux éditions La Fabrique.
Aux éditions La Fabrique, voilà. Et donc c'est le Comité Invisible. Il s'appelle Tikkun aussi. Mmh. Ça veut dire l'exilé, je crois, en persan, l'exil. Et ce sont des gens qui, ce sont des gens qui sont assez jeunes. Qui ont dans la 30, entre 30 et 40 ans, et qui écrivent. Le comité de rédaction, on sait à peu près que c'est, beaucoup de gens qui sont dans des activistes, en fait,
des vrais,
mais qui écrivent très bien, ils écrivent très bien, voilà. Et ils témoignent de quelque chose de la jeunesse aujourd'hui, de l'âge adulte, vraiment, et de l'interrogation qui est portée par cette jeunesse en France, mais aussi ça déborde les frontières de l'Europe. Ça. Mm-hmm. Et à chaque fois, on a voulu les accuser notamment de terrorisme avec l'histoire de Julien Coupa, parce que c'est cette mouvance-là. Évidemment, ça a été débouté, heureusement, parce que c'était totalement faux, c'était une affaire politique. Mm-hmm. Et en fait, tout ça converge vers la rédaction de ces livres, de ces petits livres qui sont publiés aux éditions La Fabrique et qui ont une puissance de critique politique que moi je retrouvais dans les livres de Guy Debord, qui est une critique très construite, très profonde et très dont les fondements vont dans une analyse de la société très 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 précise.
Voilà. On reconnaît, on se dit mais oui, mais c'est bien sûr en le lisant, parce qu'il y a des choses qu'on sait déjà. Et puis il y a une parole poétique, il y a une force de la langue.
Moi je trouve ce que j'ai trouvé, notamment dans le phénomène de Nuit Debout, on a fait semblant que ce n'était pas important, c'était un phénomène très important, Nuit Debout, parce que c'est la première fois depuis quasiment 68 où des gens se réunissaient dans la rue de manière spontanée et de tous âges et de toutes couches sociales. Et il y a une organisation absolument incroyable qui s'est mise en place, en tout cas à Paris, à Marseille, à Montpellier, à Nantes, partout. Et ce qui m'a frappé, c'est le mépris, évidemment, parce que c'est la société du mépris dans laquelle on vit en permanence, le mépris avec lesquels les gouvernants, et notamment, pour ne pas citer le Premier ministre, Manuel Valls, notamment, entre autres, de l'époque, qui a vraiment, vraiment tenu des propos, mais ignobles, Et bien sûr, voilà. Et après, la répression policière, etc., etc. Donc, j'ai vécu ça, donc, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi, que des gouvernants puissent frapper, criminaliser la jeunesse de son pays, qui juste était descendue pacifiquement, il faut le dire, pacifiquement dans la rue pour s'exprimer sur la démocratie, sur l'état de la démocratie et sur un avenir. Et donc on sent qu'il y a une omerta en France dès qu'il s'agit de ça. Évidemment, la société corrompue, politique, évidemment avec la collusion, avec les conflits d'intérêts, etc. On est exactement dans ça, et l'oligarchie financière. Mais aujourd'hui, et même après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, eh bien, on est taxé tout de suite de complotistes. Alors qu'en fait, c'est pour ça qu'ils ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Parce que les gens croient que ça va se passer. Non, mais ça ne va pas bien se passer, en fait. Si on veut être très, très, moi je suis très, très clair là-dessus, et je suis pas en train de jeter de l'huile sur le feu, mais simplement, l'analyse des choses fait qu'on sait très bien que ça ne va pas bien se passer. Voilà. Et il faudra que les gouvernants de ce pays se rendent compte et prennent la mesure que cette présidence a été élue avec une légitimité très, très, très relative. Voilà.
10 millions de voix à tout casser.
Et enfin, c'est 21 millions, je crois, pour Macron.
Oui, mais enlève ceux qui ont voté contre.
Bien sûr.
Voilà,
oui,
l'autre candidat,
donc,
ça fait pas lourd.
En gros, voilà, si vous voulez, tant que les gouvernants refuseront d'ouvrir les yeux
et
les oreilles sur cette réalité-là, ça pourra pas bien se passer. Parce que c'est un déni démocratique.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, à un moment donné, quand il y a un déni démocratique, eh bien, il va se passer des choses. Parce que les gens ne sont pas, ils sont debout. Voilà.
Et puis, il y a eu Maastricht, qui a été quand même un sacré traumatisme en termes de déni démocratique.
Oui, avec avec le traité de Lisbonne et tout ça. Bon, mais je pense que les citoyens. Alors, je sais pas. Je fais pas de prédiction, mais voilà. Et donc ça me ramène à cette idée, cette chose de spectacle. Je me suis dit, il faut absolument. Pour moi, il était nécessaire de parler de ça, de prendre acte et de témoigner de ça, parce que je me disais. Je me dis, voilà, tout simplement que c'était nécessaire, qu'il y ait un écho de ça sur une scène. C'est pas si courant, c'est-à-dire qu'on dit, à un moment donné, on a dit, il y a le retour du théâtre politique, ça c'est un peu les modes journalistiques qui croient repérer des choses.
Ouais.
Ça n'est pas vrai, moi je le dis sincèrement, je pense qu'au théâtre en France, des choses comme ça mises sur scène, c'est rare. Les gens qui disent qu'ils font du théâtre politique, souvent ça ramène une esthétique, ce que moi j'appelle de la branchitude tendance, mm-hmm. hein, et c'est absolument pas politique.
Et qui est daté, en plus.
Oui, daté, mais un peu, ils se disent à la mode, en fait, hein, c'est de la mode. Mm-hmm. Mais par exemple, pour les gens de théâtre notamment, et ça la pilule passe moins bien là, voilà, c'est et notamment j'étais très en colère aussi à Nuit Debout, parce que j'ai été interpellé par Monique Passon-Charlot, qui est une grande sociologue qui a écrit sur la violence des riches, mmh. et qui m'a interpellé sur la place de la République à Paris pendant Nuit Debout, et m'a dit: mais David, mais où sont tes camarades artistes? Et ils n'étaient pas là. Et donc ensuite on a publié quelque chose dans la presse et sur internet, on faisait un appel et on leur a dit: mais où êtes-vous? Parce qu'il y avait des avocats, il y avait même des chirurgiens, des infirmières, mmh. le barreau de Paris, il y avait des professeurs, il y avait tout ça, ils appelaient ça des commissions qui réfléchissaient comme ça, mais les artistes n'étaient pas là. Mmh. Et donc on a tapé un peu du poing sur la table, on a dit: mais oh, que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que après, quand j'ai parlé avec des directeurs de théâtre, avec des metteurs en scène connus, reconnus, il y avait quelque chose qui s'apparentait pour moi à une forme de lâcheté, hein, voilà, une forme de lâcheté. Mmh. En tout cas, une forme de ne pas être présent, quoi.
De démission, d'individualisme.
Oui, mais je crois qu'après c'est de peur. Moi, je pense que c'est la peur, et c'est surtout la peur de perdre. Surtout l'argent qu'on leur donne, mmh. voilà, tout mmh. simplement, parce que mmh. c'est très politique. Et si on peut dire les choses telles qu'elles sont, moi je l'ai dit, voilà, et j'ai vécu ça, et donc je l'ai très mal vécu. Et évidemment, ce spectacle fait aussi référence à ça. Et il y a, dans le spectacle, il y a une tentative de critique de la haute finance, de l'oligarchie. Très pédagogique et très sérieuse, très, mmh. voilà. Mais le centre du spectacle, c'est l'idiotisation, c'est le phénomène idiot.
D'où le sous-titre
Les Idiots, qui fait peut-être référence à Lars von Trier et tout mmh. ça, au film de Lars von Trier. En fait, c'est ça, c'est l'idée que c'est un groupe d'activistes qui essaye. On s'est mis comme si on se mettait à la place, en fait, des comités de rédaction d'un comité invisible, c'est un comité d'activistes qui essaye d'écrire texte, pour
publier un texte, oui.
Pour alors
un deuxième texte.
Ouais. Parce que le premier texte, pour nous, c'était l'insurrection qui vient. Ce qui s'est passé historiquement, c'est que l'insurrection qui vient a été lue et traduite vraiment dans plusieurs langues.
14.
Oui, non, nous on dit 14.
C'est dit dans le spectacle. Moins,
ouais. Mais si vous voulez, on sait que des activistes de comité invisible sont partis réellement à Syriza en Grèce, à Podemos en Espagne, au début dans les think tanks des révolutions arabes à l'époque, et bon, malheureusement pour des résultats qui n'ont pas été très, voilà, mais en tout cas ils ont une, en Amérique du Sud aussi, ils sont partis en Ukraine,
une vocation internationaliste,
oui, il y a ça, ça existe, il faut, moi on voulait aussi témoigner de ça, c'est des gens qui font, qui tentent des choses, qui font et qui sont sur le terrain, qui sont pas juste dans la parole, et évidemment avec la difficulté qui il y a de construire cette chose-là qui est quand même minoritaire, et face au rouleau compresseur de la société comme ça organisée telle qu'elle est, et surtout de la manipulation et des contre-vérités qui peuvent être ensuite émises par rapport à un tel mouvement,
ou voilà. L'étouffement, meilleur moyen c'est de pas en parler du tout, alors
voilà, c'est ça.
Même, comme disait l'autre, même quand on parle de quelque chose négativement, au moins on en parle,
voilà.
Auditeurs, vous vous demandez là ce que nous sommes peut-être précisément en train de dire, et bien nous sommes en train de parler du spectacle Le Vent se lève, Les Idiots, Irrécupérables, sorte de sous-titre de cette pièce qui a commencé au Célestin le mardi 6 juin, qui se continue jusqu'au samedi 10. Et là, à l'instant, nous étions en train d'expliquer un peu le sous-titre. Moi, ce que je propose, c'est que David, vous avez beaucoup parlé.
Oui.
Non pas de vous. Auditeur, je vous renvoie encore émission numéro 113 du 30 novembre dernier pour avoir davantage la biographie de David Ayala. Vous avez parlé à l'instant plutôt de la jeunesse de ce spectacle. Et pour davantage encore en dire sur l'écriture à partir de différents textes, il n'y a pas de Philippe Muret, hein. On est d'accord, Gérald? Pour en dire davantage, oui, notamment, vous étiez en train de commencer à évoquer Les Idiots, donc pour parler de tout ça, eh bien faisons une courte pause musicale, et puis continuons avec tout un tas de précisions, des détails,
soi-disant idiots d'ailleurs, dans cet asile planétaire, le monde est un asile planétaire, ça revient plusieurs fois, des phrases sont répétées, assénées, graffitées. On reparlera de la vidéo, de la mise en scène, justement.
Son nom, c'est Robière, je crois.
Oui, alors c'est, on l'a déjà passé, hein, Tuer la misère, Robière. Il est passé aux Subsistances, justement, tiens. Et les Andimanchés, c'est du rock.
Il a fait un spectacle. C'est une personne handicapée mentale qui chante, qui crée des magnifiques fusils exposés dans le monde entier.
Alors qu'est-ce que nous écoutons?
Au musée d'art brut de Lausanne. Il a exposé aussi à la MAPRA, pas loin. On va écouter Spoutnik, c'est pas mal, la 4.
Bien, très bien. Auditeur, il est 14h28 pile à l'heure, à la pendule de Radio Canu. Nous sommes très bien, nous sommes en bonne compagnie. Continuons à écouter David Ayala et un peu de musique programmée par Gérald, comme d'habitude.
Le maréchal Koukran, commandant en chef de la 8e armée soviétique, a lancé un Spoutnik autour de la Terre à 28 500 km à l'heure.
Et ça continue. Il est intarissable.
Oui, vous êtes bien sur Radio Canus, spectaculaire, avec David Ayala, Le Vent se lève. Voilà, ben, je passais André Robillard, qui est un grand artiste d'art brut, né en 1931, qui s'était produit dans le cadre d'un spectacle aux subsistances il y a quelques années, Tuer la misère, Robillard et les endimachés, avec du rock. Il est très connu au musée de Lausanne, bon, il fait des fusils assemblés, il est délirant, on va dire. Bon, il a un grain.
Et alors voilà, peut-être
pas d'être un grand artiste. Bon, pourquoi j'avais pensé à ça, puisqu'il y a
le sous-titre, les idiots, et puis on laisse, voilà, David justement développer un peu avec parfois une forme d'idiotie un peu physique. Enfin, je vous en prie, sur cette pièce, David Ayala, vous êtes le concepteur, réalisateur, metteur en scène. Le Vent se lève. Sous-titre entre parenthèses, les idiots irrécupérables. C'est même une question irrécupérable.
Oui, il y a un point d'interrogation. C'est la tentative de l'espoir, c'est-à-dire est-ce que nous sommes, est-ce que ils sont, est-ce que vous êtes, ou voilà, c'est un peu on s'inclut évidemment dans la critique nous-mêmes. Est-ce que nous sommes irrécupérables dans le sens où est-ce que on va trouver l'endroit pour continuer à être humain, à vouloir être humain dans un monde totalement idiotisé, voire mutant, c'est-à-dire par exemple avec le transhumanisme, avec l'homme connecté, l'homme digital, etc. C'est une manière d'appréhender la chose que nous renvoie l'image de cette société hyper connectée, basée sur l'ultra richesse ou l'ultra consommation, l'ultra médiatisation, etc., etc. La dématérialisation de tout. Ça nous renvoie une image qui est assez éloignée de la chose primitive, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Mmh. Et c'est pour ça que beaucoup de philosophes, de penseurs, etc., disent qu'on est dans un monde mutant. Et nous, en tant que, je dis, gens du plateau, voilà, les gens du plateau, les comédiens, les metteurs en scène, ou les écrivains de théâtre ou de cinéma, sont à même de se poser ce genre de questions. C'est quoi l'être humain aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations? Ça, c'est la grande question que se pose tout le monde, hein, et la société civile, évidemment, en premier lieu. Et donc, je trouve que quand le théâtre et le cinéma, par exemple, et les arts se posent cette question, tentent d'y apporter des réponses, je trouve qu'ils se grandissent. Voilà. Après, d'un point de vue de l'esthétique, on peut tout discuter. On peut dire j'ai aimé, j'ai pas aimé, mais je pense que les gens qui viennent voir ce spectacle ne peuvent pas s'en tenir à dire j'ai aimé ou je n'ai pas aimé. Voilà. Heureusement, ça permet de se poser d'autres questions. Moi, en regardant le spectacle, souvent, je suis, comme on disait hier soir, c'est comme un voyage en fait, mais c'est un voyage turbulent. Voilà, c'est vraiment turbulent. C'est vraiment ça prend à bras le corps, je crois, les choses. Et évidemment, j'avais dit aux comédiens, il faudrait qu'on interroge d'abord l'épicentre, c'est-à-dire le phénomène économique à travers la haute finance et le crime de la haute finance. Pour ça, on a rencontré beaucoup de gens, des spécialistes, Mireille Zaki notamment, des gens très très forts en la matière. Et on s'est beaucoup documenté pour ne pas dire n'importe quoi. Et on a vraiment fait ce gros travail. Ensuite, je me suis dit, il faut interroger la parole politique, c'est-à-dire la création du mensonge ou de l'imposture. Donc, par exemple, à travers cette équipe de campagne idiotisée,
parodie, satire, très drôle.
Voilà, très drôle, mais qui est aussi malheureusement très
réaliste.
Voilà. et ensuite, la dernière partie, c'est une tentative de critique de la cybernétique, mais qui échoue finalement, tellement le sujet est complexe à aborder. Et donc après il y a cette partie sur les insurrections, voilà, qui est vraiment porteuse de la parole de notamment du comité invisible. Et pour finir, cet endroit qu'on a intitulé la chambre des désirs, voilà.
La chambre des désirs. Cercles de huit
cercles. Dernier cercle, voilà. Oui, c'est découpé en cercles comme ça.
Alors il y a huit cercles dans le cœur du spectacle, mais il y a aussi, c'est très rythmé, hein, très syncopé, très riche, 2h45, on s'ennuie pas 5 minutes, on voit pas le temps passer. Bon, il y a
pas
des vieux qui étaient fatigués, qui sont partis, on peut les comprendre. Ou des gens excédés, peut-être, qui n'avaient rien compris. En tout cas,
on peut pas être insensible.
Il y a le texte dans le texte qui s'écrit, ce fameux document à créer comme le comité invisible, c'est 4 chapitres. Et il y a aussi 8 cercles.
Oui, voilà.
Qui ponctuent le spectacle.
Hein. Oui, voilà. Alors, évidemment, nous, notre boulot, j'allais dire, c'est qu'on doit pas faire ni un pince-somme, ni un truc qui vient endormir le spectateur, ce serait le comble. Et on a travaillé pour que, justement, évidemment, ça soit une forme toujours sensible, très vivante. Et évidemment avec un retour sur soi qui est provoqué par l'humour, voilà, l'humour et la drôlerie et la parodie aussi, enfin voilà, on ne s'épargne pas dedans, on est,
il y a beaucoup d'autocritique et puis il y a beaucoup d'engueulades, hein, il y a des engueulades.
Alors
ça s'engueule pas mal aussi.
Ça s'engueule pas mal et surtout ça se castagne aussi.
Il y a des coups sont portés.
Oui,
il y a
parce
même
que...
un conseil qui est donné, je crois c'est S-Maris qui dit bah allez, on va tous se calmer, on va s'asperger d'eau et puis allez, aquagym pour tout le monde.
Pour se calmer, oui.
D'ailleurs, il y a des scènes de vidéos après qu'on voit projeter. Et il faut dire que le dispositif scénographique est très riche et très, à la fois très simple, très efficace. On peut le dire, hein.
Oui, bien sûr.
Un cube qui sert à la fois de surface de projection. Ce cube est à la fois prison, est à la fois surface de projection, séparation entre le corps et l'écran, dont on parlait tout à l'heure. Il est un peu tout, ce cube. Hein. Espace de folie.
Exactement.
Gérald, nous lançons trop d'éléments, là, David. On vient lui demander à l'instant. Donc, vous aviez. C'est un grand souci dans différents textes que j'ai pu lire, cette idée d'éviter le pensum, d'éviter quelque chose qui soit pénible. Et Gérald, tu as raison d'indiquer la durée. Et ça marche bien, puisqu'à l'instant, vous étiez en train de dire que c'est très vivant, que ça se castagne. Donc moi, je vous interrompais en vous parlant de l'eau que propose l'une des comédiennes. Allez, on va tous utiliser un peu d'eau. Ça se castagne plusieurs fois, en plus. C'est pas seulement à certains moments.
Parce que j'ai trouvé que, déjà, c'est pas l'histoire de la question de la violence et même il est question...
Ce sont des tensions.
Il parle de la lutte armée, etc., etc. Ils débattent beaucoup de ça. Mais à l'intérieur du groupe, je trouvais que c'était qu'on donnait une image un peu bon enfant bisounours des groupes comme ça, politiques, des groupes d'activistes. On croit que ça se passe toujours très bien, qu'ils sont organisés, tout ça. En fait, moi, pour les avoir rencontrés, fréquentés, etc., on sait très bien que ça chauffe et que c'est du débat d'idées, c'est du combat politique. Et ça atteint aussi l'intime. ça atteint l'intérieur des corps, ça atteint, ça peut être aussi dévastateur, hein. Mmh. D'abord, on parle beaucoup de ça. Parce que ça, c'est quelque chose, il y a une pièce de Falk Richter où justement, qui m'avait frappé, où il est dit à l'intérieur que il y a un type qui commence à s'écorcher jusqu'au sang, parce que il devient littéralement dingue, parce que il dit que tout l'extérieur de la société est rentré dans son intérieur. Et c'est très fort, ça, c'est une image très forte que j'ai souhaité, que ça accompagne en filigrane un peu le vent se lève comme ça. Cette histoire d'insupportable. Quel est le rapport à l'insupportable? Moi, ce qui a déclenché le phénomène de me dire on va travailler sur l'idiotie, c'est que on en est tellement submergé, tellement écrasé par cette chose-là, qui est en fait les injonctions du discours dominant, hein, du discours par exemple politique, qui est absolument pathétique. D'ailleurs, le débat est réduit à néant. Mmh. Je veux dire, c'est très grave ce qui se passe politiquement.
Amusez-vous.
Dans ce... Voilà. Et dans ce côté, la société du divertissement intégré et vraiment, on assiste à quelque chose qui a été décrit dans Orwell et dans Huxley. C'est pour ça qu'on reparle beaucoup d'eux, qui est l'acculturation, la désertification culturelle à l'intérieur des cerveaux, et on remplace ces choses-là par des impulsions. Stigler parle de
like,
d'impulsions primaires, pulsionnelles, le capitalisme pulsionnel, voilà.
Et Pasolini l'avait anticipé.
Et Pasolini l'a complètement anticipé. Et donc, si vous voulez, quand on parle de ça, on a l'impression qu'on passe pour des illuminés. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est les générations de nos enfants et des enfants de nos enfants qui vont avoir les résultats terribles, catastrophiques de ce qui est en train de se passer. Et si les gens ne prennent pas la mesure de ça, mais je ne le dis pas comme une mauvaise Cassandre, hein, c'est pas du tout ça, moi je le ressens comme une très grande inquiétude, voilà, que j'ai rarement éprouvé à un tel degré, quoi, voilà. Et je trouvais qu'il était normal, comme comédien ou metteur en scène, d'essayer d'utiliser le vecteur qui est le mien, c'est-à-dire le plateau de théâtre, ou la vidéo, par exemple, pour parler de ça, parce que je trouve que c'est une situation de grand danger. Non pas parce que je pense que les gens de théâtre ou de et là aussi il y a une grande responsabilité, je trouve, des artistes. C'est Edouard Bond qui dit ça. Si les artistes continuent de faire semblant de se voiler la face, de se cacher les yeux, de faire, vous savez, le singe qui ne veut ni rien voir ni écouter, et ben voilà, ils continuent, et puis on sera dans la société du mépris, voilà. Et il y a beaucoup de mépris même à l'intérieur même de la caste des artistes, c'est ça que je veux dire. Il y a un grand mépris, il y a ce rapport aussi à la bourgeoisie, aussi dans au conservatisme, dans le monde du théâtre, énormément. Peut-être un peu moins dans le monde du cinéma d'auteur, en tout cas dans le cinéma ou le cinéma documentaire, qui a une prise beaucoup plus forte et directe avec ces problématiques. Mais je trouve qu'au théâtre, il y a, et en plus quand c'est le théâtre subventionné, justement, il y a une sorte de confort moral, comme ça, à se dire que voilà, une forme d'élitisme, pour tout dire.
Qui est magnifiquement parodié dans votre spectacle,
voilà, évidemment,
à certains moments.
Évidemment.
Et c'en est très, très très drôle, d'ailleurs.
Voilà. Parce qu'il suffit de prendre, en fait, tout simplement, nous, on se baisse pour ramasser les choses, on les prend, on les cueille comme ça, elles nous sont données sous forme de textes écrits par ces gens-là, et il suffit de les prendre et de les dire. On les dit texto, hein.
Quasiment.
Évidemment,
ouais.
La salle voilà, se bidonne réellement, on rit beaucoup parce que c'est tellement énorme ce qui est dit que...
Alors, c'est pas un rire de classe encore, ça? Le fait qu'on soit là à se moquer d'une certaine culture populaire?
ce qui est mis en scène là, c'est pas forcément la culture populaire.
Non, c'est la non-culture, justement.
Ouais, c'est une forme de culture élitiste pour moi. Mmh. Voilà, hermétique, élitiste, et alors qu'ils font semblant de dire que c'est populaire, justement.
Ouais, c'est ça.
C'est ça le problème.
C'est très bien. Je vous laisse parler. Et en fait, vous répondez aux questions que je me posais. Je me demandais est-ce qu'il n'y aurait pas un auteur contemporain qui se serait un peu approprié cette matière pour en composer un spectacle? Et a priori non, puisque justement, sinon je suppose que vous auriez pris le texte qu'il aurait écrit. Mais vous répondez un peu si peut-être ce Falk Richter, qui aurait peut-être écrit des choses un peu...
Falk Richter, oui, je connais pas tout à fait bien son œuvre, mais d'ailleurs je crois qu'il y a une pièce après nous.
Chanceux, exactement, voilà, je m'apprêtais à dire, voilà, cela.
Exactement.
Heureux auditeur et spectateur des Célestins, puisque la semaine prochaine aura lieu, commencera le mardi 13 jusqu'au 17, donc un peu comme vous, c'est cette semaine, du mardi au samedi, la pièce Nobody de Falk Richter. Cyril Test avec le collectif MXM, il est question de recevoir si elle teste la semaine prochaine ici, donc on pourra le questionner. Donc je vous interromps un instant pour terminer. Vous avez donc évoqué son nom, mais a priori donc non, il n'y a pas d'auteur. Et alors justement, ce que vous faites,
vous avez
décidé de composer votre propre spectacle à partir de différents textes. Et vous l'avez dit à l'instant, ces textes sont presque cités donc in extenso. D'ailleurs, c'est dit dans le spectacle. Il est indiqué par les différents comédiens. Pasolini l'a écrit, donc on va en lire. En plus, en italien.
Les Lucioles, les lettres luthériennes.
Pour écouter du Pasolini. Il y a également le Comité Invisible. Il y a aussi
Édouard Bond.
Voilà, exactement. Mais là, c'est le seul dramaturge
qui est convoqué là sur la scène. En fait, c'est Édouard Bond.
Voilà. Et c'est carrément joué. C'est là. Moi, j'ai lu l'autre pièce. Je pensais que c'était Rouge, Noir et Ignorant. C'est plutôt La Furie des Nantis.
La Furie des Nantis. D'ailleurs, moi, j'adore ce titre. Et il se trouve que j'ai monté cette pièce déjà. Donc, il y a des années. C'est une des premières, grandes pièces, de cet auteur que j'ai eu la chance de monter et que je connais d'ailleurs. Édouard est devenu un ami. Je le dis pas. C'est vraiment quelqu'un d'une grande rencontre, quoi. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur qui est un des très grands dramaturges vivants actuels, anglais, un auteur contemporain qui est un grand auteur. Hein. C'est vraiment, il a bouleversé réellement quelque chose dans l'écriture dramatique à la fin du XXe siècle. Hein. C'est véritablement quelqu'un d'impressionnant. Et lui, il interroge ça. Il s'interroge sur le risque. On a dit que c'était un théâtre de la violence, qui interrogeait la violence. Des pièces de guerre. Donc, il se projette souvent dans le futur, notamment des pièces qui se passent en 2060, 2050. Et là, les pièces de guerre, ça a été créé en 1985. C'était vraiment sur la terreur nucléaire, etc. Le risque de l'apocalypse nucléaire et tout. Et il est, du coup, dans la pièce Les Idiots, en fait, on a imaginé que ce groupe de gens interrogeait la société à travers le prisme de l'idiotie, comme une arme de combat critique. Et donc c'est curieux, on les voit faire les idiots, c'est-à-dire on les voit faire les débiles mentaux, en fait, comme s'ils étaient surchargés par leur corps et leur esprit étaient complètement, annihilé quoi par ces forces là oppressantes négatives que sont l'ultra consommation et le délire virtuel et ça en fait des et on en voit des phénomènes idiots et à l'intérieur de ça il est dit dans la pièce que il joue une sorte de film en fait de petites séquences de films où on est projeté dans un univers qui est vers 2050 où il y a eu une apocalypse nucléaire une bombe à neutrons pour tout dire
putain mais plusieurs fois employé ouais.
Et ce sont des survivants. On voit des survivants de cette catastrophe. Alors le spectateur peut être
les autres. Il y en a un de côté.
Oui, voilà. Il y a un nouvel homme qui arrive, etc., etc. Mais ce sont des extraits. Donc le spectateur au début est un petit peu perdu, peut-être
déboussolé. Mais on le sait, c'est une sorte de mise en abîme. Ils le disent. Oh non, on va pas le faire.
Voilà.
Ah ben, si on avait dit qu'on le ferait.
Ouais. Alors ce qui est intéressant, moi je voulais vraiment faire résonner cette parole là parce qu'elle est elle est très forte et très pertinente, c'est comment est très inquiétante. C'est une sorte de sonnette d'alarme et les gens ne veulent pas voir ça. Par exemple, on refuse de voir ça. Malheureusement, la marche du monde fait que on sait très bien que maintenant, non pas la guerre nucléaire, mais en tout cas la violence des guerres se resserre de plus en plus autour de nous et sont à l'intérieur de nous aussi, j'allais dire, avec le terrorisme, etc., etc. Mais en tout cas, le danger que génèrent ces sociétés devenues folles. Eh bien, il fallait aussi, il faut en parler, il faut absolument en parler, je crois. C'était quelque chose qui était pour moi dans la logique de ces.
On pense beaucoup au film de Peter Watkins, La Bombe, et puis le Parc. Punishment, là.
Ah oui, Punishment, par
voilà.
Ouais.
Donc, cette logique de grand auteur, Peter Watkins, hein, qui a fait La Commune aussi. On est dans cette veine-là, hein, je
oui.
trouve.
Oui, alors après, c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce spectacle, c'est parce que dans Scanner était un théâtre aussi du constat, très noir, très désespéré, avec la parole de Debord, et très virulent. très très combatif, très et qui renverse la table, si je puis dire, comme dirait Debord, pour renverser l'État. Et là, je me disais, il faudrait absolument que ça ouvre. On nous a dit, parce qu'il y a des spectateurs qui nous ont pris à partie, ils nous ont dit, ok, super, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on est toujours dans l'impuissance?
Est-ce qu'on est toujours dans le désert? J'ai dit non, justement, non. Et j'ai voulu que dans la dernière partie de la pièce, il y ait cette ouverture sur une forme d'espoir.
Mmh. Et la chambre des désirs, donc.
Voilà. Et la chambre des désirs, pour moi, c'était, on en a beaucoup, on s'est beaucoup pris la tête avec les comédiens, avec les acteurs, pour se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette chambre des désirs, etc., etc. Bon, évidemment, ça vient d'un film de Tarkovsky, Andrei Tarkovsky, grand cinéaste russe, dans un film qui s'appelle Stalker, où trois personnes partent comme ça dans une zone interdite, et pour aller y découvrir la chambre des désirs. C'est un livre d'un romancier russe dont j'ai oublié le nom, dont Tarkovsky s'est inspiré, et le film est sublime.
C'est un chef-d'œuvre de
cinéma. Et donc j'ai dit aux acteurs, dans la dernière partie, il faut vraiment qu'on essaie de voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de chambre des désirs.
C'est le retour du visage et du corps, finalement.
Alors il y a plein de choses, en fait. C'est-à-dire, nous on a essayé de définir cet endroit comme un endroit à la fois intérieur et extérieur, mais plutôt intérieur, cet endroit de la quintessence, j'allais dire, entre guillemets, de ce qui fait ce qui est censé fabriquer l'être humain, enfin, et en tout cas préserver ses idéaux et ses grandes aspirations. Voilà, ses grandes aspirations. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais dans la chambre des désirs, il faut se souvenir que dans le film de Tarkovsky, le physicien a sur lui la bombe atomique. Et il voudrait la déclencher à l'intérieur de la... Donc c'est très... Ouais. C'est très intriguant, et ça veut dire aussi que si on dit, mais qu'est-ce que c'est que cette chambre des désirs, il faut se rappeler que dans le film de Tarkovsky, ils ne veulent plus y rentrer à un moment donné, alors qu'ils sont allés juste au bord. Et c'est très bon, métaphysique, c'est très philosophique, etc. Et en même temps, nous, on le raccorde à des choses très, très concrètes qui sont, qu'est-ce que signifie l'existence humaine s'il n'y a pas, on ne parle pas évidemment de transcendance religieuse, alors que Tarkovsky était très croyant.
Le feu divin. Il est abordé,
le feu divin. Tandis que là, dans Le vent se lève, c'est sûr qu'il n'y a pas... C'est
accorder l'action avec la pensée, déjà, c'est une vraie question. La question politique, peut-être.
Oui, alors après, il y a la question du rapport à la nature, à l'écologie. Il y a des questions dans le... Et le rapport de l'homme avec son semblable, c'est-à-dire la question de l'amour, évidemment, qui est uniquement suggérée. Mais aussi... la question du vivre ensemble, mais pas comme le disent les politiques, de vivre ensemble dans l'amitié, dans la réelle amitié, dans les rapports qui ne soient pas pollués par l'hypocrisie de la comédie sociale, mais des rapports de vérité, voilà. Et comment plutôt tenir ensemble et combattre ensemble aussi. Voilà, c'est... Il y a cette chose-là qui est développée à la fin du spectacle.
Une belle utopie, peut-être, à réaliser, le terme vient deux fois, oui, utopie réalisée, il y a des utopies qui se réalisent.
Complètement.
Ça a lieu.
Mais complètement. C'est pour ça qu'on insiste pour dire que la société civile, c'est elle qui prend en charge, c'est-à-dire qui est de moins en moins politisée, en fait, a pris en charge depuis des décennies, depuis une génération, l'avenir de l'humanité, en fait. Comme dit Beckett, l'humanité, c'est nous aussi. Voilà, c'est là, on est là. Et il y a des millions de gens qui font des choses, souvent dans l'ombre, souvent de manière privée, qui s'organisent, pour contrer cette marche du monde qui court à la catastrophe et dont on voudrait imposer les modèles aux individus. Et on sait très bien qu'ils sont criminogènes, qu'ils sont absolument pas en phase avec l'avenir de l'humanité, si tant est que celle-ci en est un. C'est-à-dire, on assiste quand même à un phénomène de destruction massive de la vie, en fait. Et à chaque fois on dit mais non, mais vous vous trompez, c'est pas vrai, regardez, on a fait... Non, et il faut arrêter de se mentir, voilà, et que les politiques arrêtent, que ça s'arrête, quoi. C'est pour ça que il y a eu une grande violence dans l'élection présidentielle, une violence symbolique, une violence du non-débat, une violence, les gens se sont montés les uns contre les autres, il y a eu vraiment des choses terrifiantes. Et ça en dit long sur l'état de la France, mais je pense de l'Europe et du monde.
Et de la démocratie.
Et de la démocratie.
Qui dépérit. Voilà.
Voilà.
Auditeur Gérald, on aurait dû garder Massive Attack comme générique, mais ce n'est pas Massive Attack qu'on va écouter maintenant. On va mettre un peu, je te laisse annoncer.
Un petit peu de musique pour parler un peu de la musique du spectacle qui est très intéressante.
Et puis il nous reste 10 minutes pour tout de même revenir sur comment ça se passe concrètement sur scène. On l'a un peu évoqué, tu as évoqué tout à l'heure le cube, et je t'ai coupé Gérald, on n'est pas parti, on n'a pas continué là-dessus. Vous l'avez dit aussi à différents moments, David, il est question donc de différentes, je ne sais pas comment nommer ça, des séquences, on pourrait peut-être nommer, puisqu'on est au théâtre, on pourrait parler de scènes et d'actes. Donc, premier auditeur, allez, 10 minutes, Pascal est bien là dans les starting blocks, donc l'émission Blues des Canuts commencera bien à l'heure, nous aussi on va bien terminer à l'heure. Donc écoutons d'abord...
On va écouter de la musique mécanique, machinique, les premières du grand-père de la musique bruitiste industrielle. Pré-industriel, Roussolo. Bon, il était fasciste, mais un petit moment, pas trop longtemps. Il était quand même un grand prix. Bien sûr, Radio Canus 102.2. On écoutait des petits extraits, alors je n'ai pas la référence exacte, c'était des prises de son très anciennes, d'où le son un peu pourri, un peu granuleux, d'une compilation sur la musique du futurisme Dada Reviewed, une compilation qu'on trouve à la bibliothèque de Lapardieu, et c'était sans doute de la musique futuriste de 1911, donc la musique machinique, à base de cylindrés, et puis de machines, de moteurs, de textiles, de tout ça.
Et donc...
de la musique concrète et... peut-être de la techno. C'était pour l'occasion de parler musique, voilà. du spectacle Le Jour se lève.
Pour terminer, il reste encore moins de 5 minutes si nous souhaitons être bien ponctuels aujourd'hui pour parler de cette pièce Le Vent se lève, Les Idiots Irrécupérables, qui est à l'affiche au Théâtre des Célestins, dans la grande salle, à 20h tous les soirs. Ça a commencé mardi hier, c'est jusqu'à ce samedi. Nous sommes avec le metteur en scène, concepteur, réalisateur David Ayala. Et il nous reste encore quelques minutes pour essayer d'aller dans l'ordre, peut-être dans le désordre, pour évoquer la musique, pour évoquer les comédiens qui sont d'ailleurs nommés par leur prénom. Ils sont sur scène, ils sont nommés par leur prénom, pour nommer aussi, pour peut-être indiquer un peu le plateau,
lumière.
Pour indiquer ce découpage, on parlait de scène ou d'acte, enfin ces différentes séquences, ces différentes choses, donc tu souhaites...
Il y a une exposition photo aussi.
Oui, il y a une exposition photo de Henri Grandjean, qui est un photographe lyonnais, qui a suivi notre travail, et Henri fait un travail sur vraiment sur tous ces thèmes-là, et il s'est trouvé qu'on s'est rencontré, et il a fait un très très beau travail de photo de prise de vue, à la fois sur les tournages des séquences vidéos qui ont été filmées en 2015 et qui sont dans le spectacle, et donc l'exposition est au bar du théâtre des Célestins.
Avec des extraits de textes très intéressants, ou des photos aussi,
qui sont
plus ou moins extraits du spectacle.
Exactement.
Et voilà, qui ne sont pas forcément non plus dans
pas
le spectacle.
Pas forcément, il y a du Hazan qui n'est pas dans le spectacle, mais qui est très...
Hazan, c'est l'éditeur, hein, oui. C'est l'éditeur l'édition La Fabrique.
La Fabrique. Voilà. Et puis je crois qu'il y a du Philippe Muret pour le coup qui est cité, alors
oui,
que semble-t-il, ça a été une influence, mais il n'est pas...
Oui, parce que Philippe Muret...
Le concept d'Empire, je crois.
J'ai, oui, oui, j'ai beaucoup toujours aimé dans ses écrits son rapport à la critique sociétale, notamment par exemple de la gauche française, et avec cette ironie très mordante de Philippe Muret. Oui. Mais surtout, comment dire, et je trouve qu'il a mis le point sur une chose cruciale, qui est l'homme festif.
L'homo festivus. C'est un livre, ouais.
Il y a deux trois phrases de Muret dans le spectacle. Mmh. En fait. Mais bon, voilà, ils sont
très bien écrites, grand styliste.
Oui, c'est un grand styliste.
Et puis ça fait rire aussi.
Et il est très drôle. Il est très drôle. Et en même temps, il est très pertinent sur l'endroit de l'homme du 21e siècle qui est toujours dans la fête, quoi. Et même de la fin du 20e siècle. Et surtout, il parle de l'empire du bien. Et l'empire du bien, c'est cette chose-là qui est le grand mot à la mode aujourd'hui, c'est la bienveillance. Voilà. Mmh. Et il dit à quel point cette chose-là peut devenir toxique et criminelle, la bienveillance. Voilà. La bienveillance, après, elle peut se retourner d'une manière très, très, très perverse et très vicelarde dans des formes, par exemple, de racisme inconscient. Voilà. Mmh. Dont Emmanuel Todd a très bien décrit les mécanismes, en fait, notamment sur les phénomènes de Charlie, etc. Et c'est pour ça qu'il a été mis au banc de la société intellectuelle, parce qu'il a mis le doigt sur une chose très taboue, qui est le racisme inconscient des élites. Voilà. Et notamment des élites intellectuelles, médiatiques et politiques.
Et voilà. Et masculine, on pourrait dire, Gérald.
Ça se...
masculine, mais bon, c'est...
non, ça sera un autre débat.
Et donc voilà. Donc évidemment, Muret, il est comme ça, en filigrane un peu. Et Sade, c'est vraiment quelques phrases, mais c'est, il faudrait faire un spectacle entier sur Sade parce que c'est tellement vertigineux. Mais il a les écrits politiques de Sade sont très 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 forts, très passionnants.
Ils n'ont pas vieilli.
Et voilà. Et donc voilà. Bon, le corpus principal des textes, c'est quand même Comité Invisible, Debord, Pasolini et Bond. Voilà.
Et en fait, vous l'avez dit, donc, quand on entre, et tu l'as aussi dit, Gérald, nous sommes accueillis par, plus ou moins le Comité Invisible, qui est en train de rédiger son deuxième document. Ils sont en train de parler, hein. Vous vous installez, vous bavardez avec votre voisin de devant, Simon Abkarian, ou différentes personnes. On était très, très bien, on était bien installés hier. Metteur en scène qui vous a, un comédien, acteur qui vous a mis en scène, je crois, dernièrement, me semble-t-il.
Oui, Simon, on travaille ensemble aussi, c'est un auteur, metteur en scène.
Ouais. Pendant qu'on devise, eh bien, les comédiens sont sur scène. Comédiens que tu peux nommer, Sophie, oui, Fabienne, nommer, Alexandre.
Il y a 13 comédiens, 7 comédiennes, 6 comédiens. Donc c'est avec Sophie Affolder, Fabienne Augier, Élodie Buisson, Diane Calma, Roger Cornillac, Hervé Gaborio, Stéphane Godefroy, Christophe Labat-Lafitte, Sylvia Mamano, Alexandre Morand, Maryse Poulle, Poulet, Véronique Rugia, Philippe Sturbel.
Et ils s'interpellent sans arrêt. Mais non, Philippe, Diane, calme-toi. Sylvia, tu notes. Christophe, t'es un connard. Enfin, du moins, il ramasse
en 2045, chacun. Ce...
Oui, et donc
encore et envoie.
Il faut dire que bon, c'est une équipe, c'est un collectif, mais dans le sens. Alors là, du coup,
la nuit remue,
c'est un comité artistique, j'allais dire. Sans qui, j'aurais pas rien pu faire. Évidemment, parce qu'on a travaillé vraiment ensemble, même à l'écriture,
oui,
à la conception.
J'ai isolé votre nom. Voilà, mais c'est,
je me doutais
bien.
Etc. C'est vraiment, ça s'est vraiment fait sur le collectif.
Un ensemble.
Et là, pour le coup, ça ne se fait pas sans difficulté, mais c'est très compliqué aussi de fabriquer ce genre d'objet. Ça donne lieu aussi à beaucoup, beaucoup de
quelle mise en abîme. Il y a peut-être eu des engueulades pendant l'église
permanente.
Et sinon, et surtout, entouré de gens, d'artistes comme Laurent Sassy au son.
Voilà, très bien.
Qui fait un travail.
On peut finir le générique peut-être.
Allez, voilà, dans 30 secondes, nous diffuserons.
Création vidéo, Benoît Lao. Scénographie et costumes, Jeanne Joyet. Lumière, Jean-Michel Bauer. Assistant à la mise en scène, Nadège Samour, Amandine Duriveau. Régie générale, Jean-Marie Deboeuf.
Voilà. Et puis tu pourras encore nommer d'autres
réalisation
d'autres personnes.
Réalisation des images films, Claude Morin, David Ayala,
Gérald,
Julien Guiri.
Oui, c'est
un collectif. 10 secondes, donc spectateurs, auditeurs, si vous souhaitez voir à quoi cela ressemble, allez-y, allez donc au Célestin et vous verrez.
Il faut y aller, franchement,
sur cette scène,
même le voir plusieurs fois.
Un cube se dessine.
Très, très, très consistant.
Un cube descend. Et ce cube découpe un peu des séquences avec justement des séquences, on pourrait dire, totalement festives et critique sur
hystérique.
L'art contemporain, la télévision.
D'actionnisme viennois,
Gérald, on le fait aussi.
Il y a un petit peu d'obscénité, mais qui est quand même très policée. Donc vous pouvez même amener vos enfants pré-ados, peut-être.
Il y a parfois des passages.
14 ans, 15 ans, limite d'âge.
15 ans.
Gérald, essayons.
Il n'y a pas de scolaire prévu. Moi, j'amènerai tous les scolaires là-bas à voir ça. Ça serait intéressant.
Gérald, il faut essayer. Donc, dans ce spectacle, il y a parfois du... Alors, des choses géniales.
Tous les types, des barboriques, mais des.
Dans mon solo, danser et.
Voilà, des analyses non, sociologiques et des types de langage contemporain, et c'est très 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 bien vu tout ça.
Auditeur, il est temps.
On rigole, hein. Il est temps de réfléchir et se remettre en question, on rigole aussi. Exactement. Heureusement.
Il est temps de laisser la place à. De laisser la place. À Pascal. Oh non, ça commençait trop tôt, trop tard. Voilà, c'est le titre de Black Bloc, lié à un documentaire, puisqu'il a été diffusé dernièrement. Histoire de l'anarchisme.
Tancrède Ramonet,
le fils.
Qui est passé sur Arte d'ailleurs, il y a peut-être un mois. Moi je fais de la pub pour Arte. Hein.
Donc le groupe c'est Black Bloc, le titre s'appelle ACAB, c'est le capitaine, c'est celui qui en veut, je crois, à Moby Dick, me semble-t-il. Voilà. Donc on va essayer.
Allez voir Le Vent se lève du 6 au 10 juin, ça commence à 20h, attention. Hein.
On va écouter ça en bruit, en tête
2h45 sans entrave. Mais ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup.
C'est très très bon. Oh, zut, pourquoi cela s'interrompt-il? Non, on va bien le lancer et puis nous laissons la place ensuite à Pascal pour le boost des canuts. David, un mot de la fin? Non, c'est vous.
Ben, merci beaucoup de m'avoir invité.
Il y aura une suite.
Merci.
Ah, je sais pas s'il y aura une suite.
On peut inviter les auditeurs à se procurer dès maintenant le dernier opus du Comité Invisible qui s'appelle Maintenant.
Il s'appelle Maintenant.
Et ouais. Il est toujours aussi percutant.
Absolument.
Alors après, peut-être certains seront déçus par le dernier chapitre. Puisque bon, il y a le côté pamphlétaire qui fait un diagnostic terrible de la société. On se dit mais oui, mais c'est ça. Alors tout le monde a horreur de la police, etc. Il y a plein de choses. Il revient sur les violences policières, sur le mis debout. C'est toujours une analyse très fine, très percutante. Et il y a un dernier chapitre. On reste un peu sur notre fin parce qu'on se dit ok, on casse tout, on détruit tout et on remplace par quoi? C'est une vraie question.
Oui, c'est une vraie.
Qu'est-ce
c'est
qu'on
la vraie
construit
question.
À la place?
À 15h02, on ne peut plus y répondre. Merci beaucoup David Ayala. Restez à l'écoute. Merci. Des programmes de Radio Canu, puisque il y a aussi beaucoup de subversion, beaucoup d'anarchie, beaucoup de tout. Blues des Canus à venir tout de suite. On n'arrête pas le prog à 17h, Méga Combi à 18h, Canu Info à 19h et ainsi de suite. Merci encore David Ayala. Revenez. C'est très bien d'être venu et revenu. Il faut également revenir. Auditeur, à très bientôt. Merci David, au revoir.
Merci, au revoir.
Tout laisser sur place.
ACAB.
Soutenez ACAB.
Cadavre, la radio, cadavre, la télévision, cadavre, les stades, cadavre, les supporters, cadavre.